Donc, ça fait quelques semaines que nous étudions l'histoire de Joseph, l'un des fils de Jacob. Joseph, à qui est arrivé une suite de malheurs. Si vous étiez ici, vous l'avez vu avec nous. Sinon, je vous fais le petit résumé, là, mais dès son enfance, il était le fils préféré de son père Jacob. Et il s'est attiré à cause de cela la jalousie de ses frères, qui l'ont haï. Et il a eu aussi des rêves de par Dieu qui lui a montré qu'un jour, ses frères allaient se prosterner devant lui. Ça l'a ajouté à la haine de ses frères envers lui. Au point où un jour, ils ont le voyant arriver vers eux, ils ont décidé de le tuer. Mais heureusement, ils ont choisi un plan moins violent. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et on a vu qu'en Égypte, Joseph, même si c'était un grand malheur qu'il avait atteint, Dieu était avec lui. L'Éternel était avec lui. Et il a pu gagner la faveur du chef de la prison, Potiphar, le chef des gardes, un haut fonctionnaire du pays, pour avoir l'autorité sur sa maison. Plus tard, il a subi encore un autre malheur et il s'est retrouvé en prison, faussement accusé, faussement condamné. Mais même en prison, Dieu était avec lui. Et il a acquis la faveur des prisonniers et même du chef de celui qui gardait les prisonniers. Et plus tard, même, il a pu acquérir la faveur du pharaon en pouvant expliquer les rêves que le pharaon avait eus qui concernaient 7 années d'abondance dans les récoltes en Égypte qui allaient être suivies par 7 années de famine. Et on a vu que la parole de Dieu s'est accomplie telle qu'expliquée, telle qu'annoncée par Joseph. Les 7 années d'abondance ont réellement eu lieu. Et Joseph, parce qu'il était manifestement le porte-parole de Dieu et il avait la sagesse de Dieu, le pharaon l'a nommé au plus haut poste dans le royaume, gouverneur de tout le pays, premier ministre. Et il a eu en charge sa première tâche était d'organiser la récolte. Donc, il a pu récolter dans des granges, dans des greniers bâtis dans les plus grandes villes, le blé pendant 7 années, ou le froment. Et ensuite, est venu les années de famine. Donc, on se trouve au début des années de famine où... Là, les Égyptiens n'arrivent plus à récolter, la terre ne produit plus. Et ils crient au pharaon à l'aide, et le pharaon les envoie vers Joseph, qui là ouvre les portes des réserves pour vendre. Et il y a non seulement les Égyptiens qui achètent le blé, il y a même des gens de tous les pays dans le monde connu à l'époque qui viennent en Égypte pour acheter du blé. Et on apprend, lorsqu'on arrive au chapitre 42, que la famille de Joseph, donc Jacob et ses épouses et les enfants qui habitent avec lui et les petits-enfants, ont eux aussi été atteints par la famine. Donc, on se trouve à ce moment-là. Je vous invite à tourner dans Genèse, chapitre 42. Genèse, le premier livre dans la Bible. Chapitre 42, nous allons le lire en entier. Genèse 42, verset 1. Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Mais pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « J'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là-bas, afin que nous puissions survivre, que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du froment de l'Égypte. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, frère de Joseph, car il disait, il pourrait bien lui arriver un accident. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient dans cette intention, car c'était la famine dans le pays de Canaan. Joseph était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur parla avec dureté et il dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvient des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme et nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement, c'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays de Canaan. » Or, le petit est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, « C'est ce que je vous disais, vous êtes des espions. Et voici l'épreuve à laquelle je vais vous soumettre par la vie du Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici tant que votre petit frère ne sera pas venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et quant à vous, vous irez en prison. Vos paroles seront mises à l'épreuve pour savoir si vous dites la vérité. Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les fit mettre ensemble aux arrêts pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste en prison dans la maison d'arrêt, et vous, partez, emportez du ravitaillement pour votre famille à cause de la disette, et amenez-moi votre petit frère, afin que vos paroles soient vérifiées et que vous ne mouriez pas. » C'est ce qu'ils firent, tout en se disant l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Quand nous avons vu la détresse de son âme, quand il nous demandait grâce, nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant? Mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Mais ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète. Alors il s'éloigna d'eux pour pleurer. Puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit mettre en prison sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de froment leurs bagages, qu'on remette l'argent de chacun d'eux dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. C'est là ce qu'il fit pour eux. Ils chargèrent leur blé sur leurs ânes et partirent de là. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, au caravansérail, et il vit que son argent était à l'ouverture de sa besace. Il dit à ses frères, « Hé, mon argent a été rendu. Le voici encore dans sa besace. » Alors le cœur leur manqua. Ils se firent part les uns aux autres de leur trouble en disant, « Mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Ils arrivèrent chez leur père, Jacob, au pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé avec dureté. Il nous a accusés d'espionner le pays. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, et nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus petit est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. » Alors l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je reconnaîtrai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez ce qu'il faut à votre famille à cause de la disette, allez et amenez-moi votre petit frère. Je reconnaîtrai ainsi que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez commercer dans le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, la bourse d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur bourse d'argent, et ils furent saisis de crainte. Leur père Jacob leur dit, « Vous me privez de mes enfants? Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. » « Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob répondit, « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un accident dans le voyage où vous vous engagez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Il y a beaucoup d'émotions dans ce récit. La première émotion qu'on voit, c'est Joseph qui voit ses frères. Il voit enfin, il revoit ses frères contre toute attente, contre toutes les probabilités. C'était une situation impensable, inimaginable. Joseph voit arriver ses 10 de ses frères devant lui. Il les reconnaît aussitôt. C'est sûr, même si des gens qu'on n'a pas vus depuis de longues dates, surtout nos frères, les gens de notre famille, on les reconnaît. Ce qui est surprenant, c'est qu'eux ne l'ont pas reconnu. Mais on peut comprendre, on calcule qu'il s'était passé 20 ans depuis que Joseph avait été vendu. Et à l'époque, il était encore tout jeune, un adolescent. Donc, il avait 20 ans de plus, ses traits avaient changé. En plus, devant eux, il ne parlait pas en hébreu, il ne parlait pas sa langue maternelle. Il parlait l'égyptien, puis il utilisait un interprète pour leur parler. De toute façon, c'était inimaginable pour eux qu'un esclave hébreu devienne le principal gouverneur du pays d'Égypte. C'était inconcevable. Jamais ça aurait pu leur passer par la tête que ça pouvait être leur frère. Mais donc, sans le savoir, ses frères sont venus se prosterner devant lui. Les 10 frères se sont prosternés devant Joseph, la face contre terre, il dit au verset 6. Et c'est à ce moment-là que Joseph s'est souvenu du rêve qu'il avait fait, des 2 rêves qu'il avait fait quand il était jeune. Dans son premier rêve, il était avec ses frères dans les champs et chacun ramassait le blé, il formait des gerbes. Puis il avait vu sa gerbe s'élever, il avait vu la gerbe de blé de ses frères se lever aussi et venir entourer sa gerbe et se prosterner devant elle. Donc, ses frères l'avaient détesté quand il avait raconté ce rêve. Mais 20 ans plus tard, c'est ce qui est arrivé. Littéralement, ses frères sont venus l'entourer sans savoir que c'était lui et se sont prosternés devant lui, à ses pieds. Tout se passait effectivement comme Dieu l'avait annoncé, comme Dieu l'avait planifié. Ça venait une fois de plus confirmer à Joseph que tous les malheurs qu'il avait vécus, tous les événements extraordinaires qu'il avait vécus et la manière dont il avait été sauvé de la prison, tout cela faisait partie du plan de Dieu. Mais il avait aussi fait un deuxième rêve, Joseph, vous vous en souvenez? Dans son deuxième rêve, il voyait 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Et quand il avait fait le rapport à ses frères, puis ensuite à son père aussi, à Jacob, ses frères étaient choqués, mais même Jacob était choqué, puis il l'a repris. Il lui dit, « Es-tu en train de sous-entendre que tes frères, ta mère et moi, un jour on va se prosterner devant toi? » C'était inimaginable. Mais ce rêve amenait une précision de plus, là. C'est pas pour rien ici qu'on voit que lorsque ses frères se sont agenouillés devant lui, Joseph repensait à ces rêves-là. Il y avait 11 étoiles qui se prosternaient. Mais là, présentement, il n'y avait que 10 de ses frères. Il manquait le 11e. Aussi, il n'y avait pas les 2 autres personnes attendues, là. Selon Jacob, son interprétation, c'était que lui-même devait se prosterner et sa mère. La mère de Joseph, alors qu'il avait eu ce rêve, était probablement déjà décédée. Si on suit l'ordre chronologique que c'est présenté dans la Genèse, et ça fait du sens aussi. Rachel était déjà morte, parce qu'elle était décédée à la naissance de Benjamin, son petit frère. Donc, s'il y avait 11 étoiles, c'est parce que Benjamin était né. S'il y avait eu ce rêve-là, il y avait 11 frères. Donc, Rachel était forcément décédée déjà. Donc, qui? Le soleil, s'il représente Jacob, la lune, qui représente-t-elle? Mais peut-être la mère qui a pris soin de Joseph lorsqu'il était enfant. C'est ce que plusieurs supposent. Certains disent Léa, mais ce serait surprenant, c'est plus probable que ce soit Bila, la servante de Rachel, qui a pris soin de lui. Mais donc, ce deuxième rêve-là n'était pas pleinement accompli lorsque ses frères sont venus s'agenouiller devant lui. Et c'est peut-être cela qui a poussé Joseph, parce qu'on voit la suite. Joseph se souvient des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Et il leur dit, c'est dans la même phrase, « Vous êtes des espions. » On voit que c'est le fait de voir que le rêve n'est pas totalement accompli qui le pousse à monter tout ce stratagème-là de les accuser d'espionnage. Mais je vais ouvrir une parenthèse ici parce que je n'étais pas satisfait, je vous dis franchement, de cette interprétation-là qu'il s'agit de Jacob, que le soleil représente Jacob et que la lune représente la mère qui l'a élevé. Parce qu'on ne voit pas plus loin, nécessairement, dans le texte, lorsque sa famille vient, on voit, oui, que Benjamin, lorsqu'il est envoyé avec ses frères, il est avec eux lorsqu'il se prosterne devant lui. Ça complète les 11 étoiles. Mais lorsque Jacob arrive, Joseph saute au cou de Jacob, il pleure, mais on ne le voit pas aller se prosterner devant lui. Et il n'est pas question non plus de sa mère, quelle qu'elle soit, qui elle soit, qui viendrait se prosterner devant lui. Donc, j'ai continué à étudier le sujet, puis pour arriver au chapitre 47, je vais vous demander de tourner au chapitre 47, à la fin du chapitre 47. Donc, c'est beaucoup plus tard, à l'époque où Jacob est sur le point de mourir. Chapitre 47, verset 27. chapitre 47, verset 27. Israël, c'est Jacob. C'est l'autre nom que Dieu lui a donné, son nouveau nom. Habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Il a pris possession. Et ben, lui et sa famille, ils furent féconds et se multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. La durée totale de la vie de Jacob fut de 147 ans. Les jours d'Israël touchaient à leur fin. Et il appela son fils Joseph et il lui dit, « Si tu veux me faire une faveur, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et agis envers moi avec bienveillance et fidélité. Je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte, ne m'enterre pas en Égypte, car je serai couché avec mes pères. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'ensevelieras dans le tombeau. » dans leur tombeau. Joseph répondit, « Je ferai ce que tu me dis. » Et Jacob lui dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna au chevet de son lit. C'est la seule mention de Jacob qui se prosterne, mais moi, j'y vois un accomplissement de la prophétie. Il se prosterne en présence de Joseph. En fait, il se prosterne suite à la demande qu'il a faite à Joseph. Même il supplie Joseph là, par les pouvoirs que Dieu lui a donnés, qui est maintenant le maître d'Égypte. Et en réalité, il est le maître de la famille d'Israël même. Là. Il le supplie d'accéder à sa requête que lorsqu'il va mourir, qu'il ne l'enterre pas en Égypte. Il veut aller être enterré dans le tombeau de ses pères. Il lui demande même de le jurer. Là, et c'est devant Dieu. En fait, lorsque Jacob fait cette demande à Joseph, c'est à Dieu qu'il l'a fait. Lorsqu'il supplie Joseph, c'est Dieu qu'il supplie. Et lorsque Joseph lui jure, lui promet de le faire, même c'est par serment, lorsqu'il dit qu'il met sa main sous la cuisse, c'est un serment devant Dieu. Lorsque Joseph lui jure qu'il va le faire, c'est Dieu, dans le fond, qui lui accorde cette faveur-là. Et lorsque Jacob se prosterne, il se prosterne devant Dieu qui accède à sa requête, mais il se prosterne en même temps devant Joseph. Alors moi, ça me satisfait de voir en Jacob le soleil dans ce rêve, qui est la lune dans ce cas-là, mais il y a un autre aspect dans le petit passage qu'on vient de lire, c'est que le nom de Jacob et d'Israël alternent constamment. Et c'est pas mal à partir de ce point-là dans la Genèse et jusqu'à la fin où pourtant Dieu avait dit, tu devrais t'appeler Israël, mais il continue de se faire appeler Jacob dans le texte. Et souvent, lorsqu'il est appelé Jacob, c'est pour montrer sa nature qui est encore mauvaise. Les péchés qu'il commet. Il n'est pas digne d'être pris en exemple la plupart du temps. Mais à la fin, lorsqu'il bénit ses petits-fils, qu'il bénit ses enfants, il est appelé Israël. Israël, le nom Israël fait référence à l'homme qui marche avec Dieu. Le nom de Jacob fait référence à l'homme qui n'était pas avec Dieu avant. C'est comme le combat qui est dans le cœur de Jacob et d'Israël. Jacob est une lumière, dans un sens, pour sa famille, mais une faible lumière, qu'on pourrait dire la lune. Mais lorsqu'il se comporte en Israël, il est la lumière éclatante du soleil. Bon, moi, c'est une interprétation qui me satisfait. Donc, je verrais que la lune et le soleil, c'est Jacob, Israël. Mais si vous préférez l'interprétation que la lune, c'est l'une des femmes de Jacob qui a élevé Joseph, c'est correct aussi. Mais un autre détail intéressant ici, lorsque Jacob dit à Joseph, qui lui demande la faveur d'aller l'enterrer ailleurs, en Canaan. Il lui demande, agis envers moi avec bienveillance et fidélité. Bienveillance et fidélité, c'est vraiment, parfois on dit la bonté et la fidélité, c'est vraiment une expression qui est associée à Dieu habituellement. Là. Dieu est celui qui est bon et fidèle. Ça revient partout après là, dans l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'il s'est prosterné, Jacob, à ce moment-là, à la fin de ses jours, c'était un acte de foi. Et Hébreux le confirme, dans Hébreux 11, 21, il dit, « C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna. » Il a reconnu que Joseph était le sauveur de la famille, celui en qui il pouvait avoir confiance, celui qui représentait Dieu. Mais, comme je le disais, Jacob n'est pas un bon exemple. Si on retourne dans chapitre 42 qu'on étudie, même là, il n'est pas encore un bon modèle. l'attitude de Jacob n'est pas un modèle à suivre. Lorsque ses frères, lorsque ses fils reviennent d'Égypte pour lui annoncer la nouvelle que là, Siméon est gardé en prison, qu'ils ont été accusés d'espionnage et que pour récupérer leur frère, il doit retourner là-bas avec Benjamin, il les blâme. Mais il les blâme d'une manière égoïste, là, et égocentrique. Il dit, ce malheur-là retombe sur moi. Qu'est-ce que vous m'avez fait encore, là? On dirait qu'il ne se soucie même pas du fait que son fils Siméon est en prison. Et il ne sait pas trouver une solution. Ça reste comme cela. On voit que ça va jusqu'au prochain chapitre où là, les réserves de blé qu'ils ont réussi à amener sont épuisées. Puis là, il est forcé d'acquiescer à la demande du gouverneur d'Égypte. Mais sinon, il n'est pas prêt même à sauver son fils Siméon, de peur de perdre Benjamin. Mais en ce sens-là aussi, il est pessimiste, sans confiance en Dieu. Il dit, si j'envoie Benjamin, qui sait, il va peut-être y arriver un accident. Il va mourir, je vais perdre l'autre fils. Je vais perdre mon seul fils qui me reste. Alors, il n'y a comme pas de considération en plus pour ses autres enfants, quand il dit cela. Il dit, mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. C'est pour ça que jusqu'à la fin de la Genèse, son nom alterne entre Jacob et Israël. Donc ici, Joseph, en voyant ses frères qui se sont prosternés devant lui, voyait un accomplissement, voyait le début de l'accomplissement des rêves qu'il avait eus. Mais il attendait plus. C'est pour ça qu'il monte tout ce stratagème. Et il commence par les accuser. Vous êtes des espions. Et eux, pour réfuter cette accusation-là, ils disent, non, nous sommes sincères. Nous sommes 12 frères d'un même père. On ne peut pas être des espions. Nous sommes tous frères d'un même père. C'était un bon argument en soi, parce que c'était peu probable qu'un père envoie 10 de ses enfants en Égypte là, pour espionner, pour ensuite essayer d'aller voler ou d'envahir, au risque de perdre ses 10 fils. Ça faisait du sens, mais Joseph continue de les accuser. Comment, eux, ils ont pu croire qu'ils étaient réellement accusés d'espionnage? Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Comment ils ont pu croire à cela? Mais ça faisait du sens, ça aussi, parce que l'Égypte, à l'époque, c'était l'un des pays les plus riches dans tout le royaume connu, dans tous les pays connus, et les yeux de beaucoup de royaumes étaient sur eux, qu'ils convoitaient leur richesse. Et là, en plus, ils étaient en période de famine, là, de pénurie, et on apprend que la famine avait touché le monde connu à l'époque, tous les pays, là. C'est sûr que ceux qui avaient des mauvaises intentions tournaient leurs yeux vers l'Égypte. Puis la frontière nord-est qui donnait sur Canaan était la plus facile d'accès, la plus vulnérable. Donc c'est systématique et même on a des rapports dans les écrits d'archéologie que ceux qui venaient en voyage et qui passaient par cette frontière-là étaient tout de suite soupçonnés. Ils étaient passés au peigne fin là, pour voir s'il n'y avait pas des risques que ce soit des espions. Et c'est arrivé dans l'histoire justement peu de temps après, quelques siècles après, l'Égypte a été envahie. Justement par cette frontière-là, par des gens qui convoitaient leur richesse. Donc, eux, ils ont pu croire qu'ils étaient réellement suspectés. De toute façon, Joseph les a fait mettre en prison 3 jours. Ça, c'était assez convaincant. Là. On peut croire que Joseph, ici, avait l'intention de se venger. Il leur parle durement, sévèrement. Il y avait toutes les raisons du monde de se venger. Si on avait été à sa place, peut-être qu'on aurait été tenté de se venger aussi, de faire accomplir la justice. En plus, qu'il avait tout le pouvoir, lui, pour que justice lui soit faite. Là. Il pouvait leur faire payer chèrement ce qu'il avait fait contre lui. Mais il n'en est rien. Il y a plein d'indices dans ce passage qui montrent que son désir n'est pas de se venger. Joseph voulait plutôt se réconcilier avec ses frères. On voit un amour, une tendresse envers ses frères. Mais il ne peut pas y avoir de réelle réconciliation s'il n'y a pas de repentance. Il devait d'abord vérifier si l'attitude de ses frères avait changé. Est-ce qu'il regrettait le mal qu'il lui avait fait ou est-ce qu'il recommencerait encore aujourd'hui? S'ils étaient dans la même situation, est-ce qu'ils allaient recommencer? Est-ce qu'ils allaient abandonner Siméon? C'était un test, ça aussi. Est-ce qu'ils étaient encore menteurs? Est-ce qu'ils étaient encore jaloux lorsqu'ils voyaient quelqu'un qui avait des avantages? Surtout que là, il devait supposer que son petit frère Benjamin était devenu le préféré de Jacob. Est-ce qu'eux étaient jaloux envers Benjamin? Comment ils le traitaient? Est-ce qu'ils étaient encore moqueurs, violents, cupides, avares? Comment est-ce qu'ils avaient traité Benjamin? Ils s'enquêtent de cela, ils leur posent des questions. Quelle attitude qu'ils avaient envers Jacob, leur père? Donc, les accusations avaient pour but aussi de les faire parler, de voir quel était leur cœur aujourd'hui. Puis, il les traite durement, il leur dit, « Vous allez tous rester en prison, il y en a seulement un qui va retourner. » Mais après 3 jours, lorsqu'ils sortent de prison, on voit déjà un signe de sa miséricorde, de sa clémence, parce qu'il change les exigences. Ce n'est plus « Vous allez tous rester en prison, sauf un qui va retourner. » C'est « Vous allez tous retourner, sauf un qui va rester en prison. » C'est un premier signe, mais eux, ils ne l'ont peut-être pas vu, là. Un premier signe de sa grâce, de sa miséricorde. Et Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. » Donc oui, il y avait une menace dans cela, mais c'était amené d'une manière positive. « Faites ceci et vous vivrez. Je vous offre une occasion d'avoir la vie sauve. » Même, il dit, « Je crains Dieu. » Dans le fond, ce qu'il leur disait, « Je crains Dieu, je ne veux pas vous tuer. » Je vous donne une occasion réelle de rester en vie. Ça expliquait pourquoi aussi il réduisait l'exigence à un seul prisonnier. Puis, il le dit aussi spécifiquement, il dit, « Si j'envoie seulement une personne chez vous, il ne pourra pas apporter assez de blé pour la survie de toute votre famille. » Parce qu'il y avait une règle à l'époque, celui qui venait acheter du blé pouvait en acheter seulement pour lui et sa famille proche. Donc, celui qui le laissait partir ne pouvait pas amener du blé pour les 12 familles. Donc, en envoyant 9 frères sur 10, il pouvait amener suffisamment de provisions pour la famille. C'est encore là, son désir, on le voit, il voulait que personne ne meure dans sa famille. Son désir, c'était que tout soit sauvé. Il avait pour eux des sentiments tendres. On le voit qu'il doit se retirer à un moment donné pour pleurer. S'il avait pleuré devant eux, il se serait trahi. Mais il était touché. Et on voit, d'ailleurs, c'est assez évident que Joseph leur avait déjà pardonné. Lorsqu'il veut les tester, qu'il souhaite leur repentance, c'est pas pour se faire justice. C'est pour que finalement, c'est pas une condition à ce qu'il leur accorde son pardon. Et il les avait déjà pardonnés. Il est déjà plein de bonté pour eux. Il remplit leur bagage de blé, de froment. Puis même, il remet l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter. Il fait remettre tout ça dans leur bourse. Et c'est Siméon qui a été pris. C'est intéressant que Siméon, c'est le deuxième dans la famille. Ce n'est pas Ruben qui a été pris, l'aîné. Parce que Ruben, ce n'est pas lui qui était l'instigateur de la violence contre Joseph. Même Ruben a voulu le secourir. Donc, parmi les frères qui ont conspiré contre Joseph pour le vendre, c'est Siméon qui était l'aîné parmi eux. C'est lui qui a été mis en prison. Joseph savait ce qu'il faisait. Et c'était un signe clair, même les frères, en voyant cela, en voyant toutes les événements, puis ils ont eu trois jours pour y réfléchir en prison aussi, là. Ils ont conclu, c'est parce qu'on a péché. Notre péché nous rattrape. Le sang qu'on a versé, le sang de notre frère, retombe sur nous. Et ils étaient convaincus que par ce gouverneur d'Égypte, là, qu'ils ne connaissaient pas, c'était la justice de Dieu qui s'appliquait. Dieu est en train de leur punir, de les punir d'avoir fait ce grand mal. Puis ils connaissaient, sûrement de bouche en oreille, ce que Dieu avait dit après le déluge. Lorsque Noé et sa famille sont retournés sur la terre, après que le déluge est redescendu, les eaux se sont redescendues, et Dieu a refait un pacte avec Noé, mais il a mentionné spécifiquement, « Je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui versera le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » Je suppose que pendant les 20 ans après qu'ils avaient vendu Joseph, ils avaient essayé d'oublier cet événement-là. Tu ne peux pas vivre dans un sentiment de culpabilité comme ça tous les jours. De toute façon, ils n'avaient pas le choix de vivre comme si c'était rien passé parce qu'ils ne l'ont pas dit à Jacob. Ils devaient vivre comme si réellement Joseph était mort et mener deuil même avec leur père. Là. Faire semblant qu'ils concluaient que Joseph avait été tué par une bête féroce. Donc, ils ont essayé de vivre en oubliant ce geste qu'ils ont commis, comme si rien ne s'était passé, mais rien n'était réglé. C'était encore là. Et même si jusqu'à un certain point, ils ont peut-être réussi à vivre dans la vie quotidienne en oubliant ce qu'ils avaient fait à Joseph, c'est revenu. À ce moment-là, c'est revenu. On le voit, les 10 frères se parlent les uns aux autres, puis le souvenir est très frais dans leur mémoire. ce n'est pas régler un problème lorsqu'on fait juste l'oublier. C'est comme peinturer une voiture qui est toute rouillée. C'est pas long que la rouille ressort. Est-ce que vous avez des mauvais souvenirs? Des souvenirs coupables que vous avez essayé d'oublier? Moi, j'en ai. On essaie, mais ils reviennent dans notre conscience lorsqu'on se trouve dans une situation où il suffit d'une parole, ou une odeur, ou un son qu'on entend, ou... puis là, oh, le souvenir nous revient. On essaie d'oublier ceux dont on s'est moqué, dont on a blessé. Souvent, quand on est jeune, on va se moquer de quelqu'un à l'école, un jeune qui est le mouton noir de la classe. Là. On se sent coupable par la suite d'avoir fait ça. On essaie d'oublier les gens qu'on a manipulés pour notre propre avantage. Les gens qu'on a contrôlés pour notre propre avantage. On essaie de cacher les mensonges qu'on a faits à ceux qu'on aime. On essaie d'oublier qu'il y a eu des gens dans le besoin qu'on a ignorés, qu'on n'a pas secourus. On essaie d'oublier les choses qu'on a faites en secret, que personne ne sait, mais dont on savait que c'était mal. Mais on ne peut pas oublier. C'était peut-être pour ça, d'ailleurs, que les frères ne voulaient pas aller en Égypte au départ. Au début du chapitre 42, on voit ils arrivent au point où est-ce qu'ils n'ont plus rien à manger. Jacob dit, si ça continue comme ça, on va mourir. Là. Jacob avait entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte, puis ses frères le savaient aussi. Là. Mais il dit, qu'est-ce que vous faites juste à vous regarder? Là? Ils devaient se regarder les uns les autres, puis ils n'osaient pas en parler. Mais retourner en Égypte, c'était rappeler le souvenir douloureux qu'ils avaient envoyé leurs frères là. Mais ils n'ont pas eu le choix. Les événements ont déboulé et les événements les ont forcés à se rappeler de cela. Et nous savons que c'est Dieu qui avait provoqué cette famine. Puis on voit dans le développement de l'histoire ici, à partir de Genèse 42 et dans les chapitres suivants, on voit que Dieu met tout en place. Là. Et on voit que cette famine-là avait l'un des buts, et le but principal qu'il nous est montré, c'était d'amener la famille de Joseph, de Jacob en Égypte, de les sauver. De permettre que ce petit groupe-là, qui aurait été facilement assimilé par Canaan, soit emmené en Égypte, dans un endroit sécuritaire, à l'abri des autres peuples, et un endroit où c'est sûr qu'ils n'allaient pas se mélanger avec le peuple parce que les Égyptiens n'aimaient pas les Hébreux, et où ils allaient pouvoir se multiplier, devenir un grand peuple. Le salut devait passer, par contre, par leur repentance. On voit toute la démarche qui est faite auprès des fils de Jacob pour les amener à se repentir. Et Joseph est un instrument dans les mains de Dieu pour cela, pour les amener à la repentance. Et là, à ce moment-là, ils avaient franchi les premières étapes de la repentance. Donc, premièrement, ils s'étaient souvenus du mal qu'ils avaient commis. On ne peut pas se repentir si on fait semblant qu'il ne s'est rien passé. On doit être honnête, se souvenir du mal qui a été fait. Et ils se sont reconnus coupables. Ils n'ont pas cherché à s'excuser, à dire « Oui, mais on l'a vendu, mais c'est de sa faute. » Là, il a couru après le trouble. Et il n'arrêtait pas de se vanter, c'est le chouchou de notre père. Non, là, ils sont très clairs. On a commis un grand mal et son sang nous retombe sur nous. Ils ont été honnêtes. Nous sommes coupables. Nous méritons la punition. Pour régler réellement le problème de nos péchés qu'on a commis, qu'on peut tenter d'oublier, on doit faire ça nous aussi. On doit se rappeler, même si c'est souffrant, on doit se rappeler de ce qu'on a fait. On peut en parler à Dieu. Voici ce que j'ai fait. J'ai honte de cela. On dit ouvertement. Et pour réussir à régler le problème, c'est le cœur repentant qui va changer la situation. Et pour cela, on doit l'avouer. On doit le confesser à Dieu. Je suis coupable de ce que j'ai fait. Et même s'il y aurait plein de justifications, plein d'excuses, le mal que j'ai commis, je l'ai commis. J'en suis coupable et je mérite ta punition. Je mérite ton jugement, je mérite les conséquences de mon péché. Et même, je mérite pire que cela. Je mérite la mort. Eux, ils étaient convaincus, les frères de Joseph. Mais Joseph, comme on l'a dit, il les avait déjà pardonnés. Et avant qu'ils partent, Joseph fait remettre l'argent dans leur bagage. On voit que c'était à nouveau un test. Je ne sais pas si Joseph avait vraiment l'intention de les tester. Je crois que oui, mais Dieu s'est servi de cela, en tout cas, pour les amener à un autre niveau de repentance aussi. Joseph, par là, pouvait savoir est-ce que l'amour de l'argent est encore dans leur cœur, parce qu'ils avaient vendu Joseph pour pouvoir tirer un peu d'argent de lui. Quel sentiment ça allait provoquer dans leur cœur, le fait de voir cet argent-là? C'était en soi comme une démonstration de la grâce, de la miséricorde de Dieu par Joseph, un don immérité. Mais on voit qu'eux, leur réaction, ça a été quoi? La crainte, la peur. Et ils ont eu ce même sentiment arrivé à la maison. Ils ont eu une grande crainte. Ça dit que leur cœur s'est arrêté, là. Pour nous repentir réellement de nos péchés, on doit aussi prendre conscience de la justice de Dieu. Eux, ils disaient, mais qu'est-ce que Dieu nous fait, là? Ils avaient peur de ce que Dieu pouvait leur faire. Pour se repentir, on doit prendre conscience qu'on mériterait, quelles seraient les conséquences si on n'était pas sous la grâce de Dieu. Si on était encore sous la colère de Dieu, qu'est-ce qui nous arriverait? Et ce n'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, on revient constamment là-dessus. Le Nouveau Testament insiste sur le fait qu'il n'y a plus de condamnation, nous sommes sous la grâce, nous avons été pardonnés. Mais il nous rappelle, attention, là, si vous n'étiez pas sauvés, là, pour ce que vous faites, pour les péchés que vous commettez maintenant, là, vous seriez dignes d'aller en enfer. Souvenez-vous de cela. Et même si nous sommes convaincus que nous sommes sauvés, ce qui va nous permettre de nous repentir quotidiennement, régulièrement jusqu'à la fin de nos jours, là, c'est de se souvenir de ce qu'on aurait mérité si on n'avait pas été gracié. On doit se souvenir de ce que Romains 6, 23 dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Dans Éphésiens 5, 5 et 6, il dit, « Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Si la colère de Dieu est sur les nations, présentement, c'est pour des péchés que nous-mêmes, parfois, on commet. Ça nous rappelle la gravité du péché, ça nous rappelle la justice de Dieu, sa sainteté. Avec un seul des péchés qu'on a commis, si on se présentait devant Dieu avec ce péché-là sur nous, on serait désintégré à l'instant. La pureté de Dieu ne peut pas tolérer la moindre impureté en sa présence. Donc, on a vu les étapes jusqu'à maintenant de la repentance. On doit se souvenir des péchés qu'on a commis, mais se souvenir de l'événement, se souvenir du tort qu'on a fait, des dommages qu'on a causés. L'avouer, là. L'avouer à Dieu. Parfois, il faut même aller l'avouer à la personne qu'on a blessée. Reconnaître sa culpabilité aussi. C'est la deuxième étape. Non seulement on a des remords pour ce qu'on a fait, mais on reconnaît qu'on est coupable et qu'on mérite les conséquences. Et on doit prendre conscience de la puissance de Dieu, de sa justice, de sa sainteté qui est terrible. On doit avoir la crainte de Dieu. C'est ce qui nous pousse à nous repentir. C'est pour des fautes semblables à celles qu'on commet que des gens vont en enfer. Mais il restait encore des étapes à franchir pour avoir une pleine repentance, et c'est ce qu'on va voir dans les prochains chapitres, dans cette démarche. Et c'est les mêmes étapes qu'on doit franchir. C'est lorsqu'on voit que Dieu, dans sa justice, devrait nous punir et même nous faire subir toutes les conséquences de nos péchés sur cette terre et ultimement nous envoyer en enfer pour l'éternité, on doit saisir la grâce. La promesse que Dieu nous fait, qu'il est prêt à nous pardonner, qu'il veut nous pardonner, qu'il est capable de le faire, qu'il est sincère. On doit croire que les événements que Dieu a permis dans notre vie, même pour nous emmener à cette repentance-là, sont pour notre bien et sont positifs. Que même peut-être les punitions qu'on subit sur cette terre, les conséquences de nos péchés, sont pour nous emmener à une repentance qui est pour nous sauver cette tristesse-là qu'on a ressentie et pour notre salut. C'est ce qui nous pousse à chercher sa grâce, à lui demander le pardon. Mais on peut demander pardon à Dieu en paix et recevoir sa paix si l'on croit qu'il est prêt à nous pardonner. Si on croit que Dieu nous aime. Et la dernière étape de la repentance, c'est qu'une fois qu'on reçoit ce pardon, cette grâce de Dieu, si réellement c'est arrivé qu'on a reçu ce pardon-là, ça va nous pousser à vouloir changer. Prendre la décision de changer. Une vraie repentance, ce n'est pas seulement à regretter ce qu'on a fait. C'est de faire volte-face. C'est de changer d'attitude, changer de comportement, décider de ne plus commettre ce péché-là pour lequel on s'est repenti. Se réconcilier avec Dieu pour l'offense qu'on lui a faite, mais se réconcilier avec quelqu'un contre qui on a péché. réparer les torts qui sont réparables. Malheureusement, la plupart des torts qu'on commet ne sont pas réparables, mais certains d'entre eux, on peut les réparer. Prendre la résolution de ne plus faire ce péché-là. Puis à l'instant où on demande pardon à Dieu, on peut être sûr que Dieu nous a pardonné. C'est ce que Jésus témoigne alors qu'il est sur le point de mourir. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je suis sûr que le Père a accédé à sa demande. Et lorsqu'on se présente à Dieu, il nous pardonne. Il nous a déjà pardonné parce qu'il nous a appelés à lui. Jésus, mort sur cette croix, c'est notre Joseph, c'est notre Sauveur. C'est l'instrument entre les mains de Dieu pour nous amener à la repentance et nous sauver. Selon Matthieu, c'est intéressant aussi parce que Matthieu veut intentionnellement nous montrer que Jésus est celui qui accomplit toutes les prophéties et dans l'Ancien Testament. Et après la résurrection de Jésus, après que Dieu lui ait donné tout pouvoir, qu'il a remis tous les pouvoirs du royaume, de la terre et des cieux entre les mains d'un seul, qui est Jésus, bien, Matthieu fait mention de 13 personnes qui se sont prosternées devant lui. Ce n'est pas un hasard. Il y a deux femmes qui étaient allées voir au tombeau, aller voir le cadavre de Jésus et qui n'étaient plus là. Marie-Madeleine et une autre femme qui s'appelle Marie. On sait qu'il y en a eu d'autres aussi qui sont allées, mais Matthieu rapporte seulement ces deux-là. Et plus tard, lorsqu'elle rencontre Jésus, dans Matthieu 28, verset 9, « Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent. Et dans Matthieu 28, 16 et 17, les 11 disciples, les 11 étoiles, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, ou ils l'adorèrent. Mais littéralement, c'est ils se prosternèrent devant lui. Donc la prophétie, le rêve que Joseph avait eu, n'était qu'une ombre, en fait, du grand sauveur du peuple de Dieu, qui est Jésus, qui nous pousse à la repentance. C'est celui-là, c'est ce sauveur, notre Joseph à nous, que nous voulons honorer par ce repas. Ce repas qu'on appelle le repas du Seigneur, qui représente, qui est une commémoration du sacrifice qu'il a fait pour nous. Il a subi des souffrances terribles. Il a été 3 jours dans le cachot avant que Dieu le ressorte de là. Et c'est pour nous qu'il l'a fait, pour nous sauver. Il est l'instrument entre les mains de Dieu. Ce pain représente son corps qu'il nous a donné. C'est sa vie là, qu'il nous a donné. Et le fruit de la vigne, ici, le jus de raisin, représente le sang qui a coulé, qui est son essence vitale. Et lorsqu'il a perdu tout son sang, il a rendu l'esprit à Dieu. Il est venu au bout de son sang pour nous.